Dialogue en franco-congolais avec Alain Ronk à la présentation.
Bonsoir. Clôture mardi dernier à Matadi au Bas-Congo de la réunion des chefs d'état-major du Rwanda, du Burundi et de la RDC. Parmi les recommandations, on note entre autres la mise en place d'un mécanisme d'échange de renseignements dans le cadre des opérations militaires. Quelle analyse faire des recommandations issues de cette réunion et comment concrétiser ces recommandations pour consolider la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs? Nos invités dans cette émission sont Alain-André Atundu-Diongo, président de la Convention pour la démocratie et la République, parti de la majorité présidentielle et directeur général du bureau d'études stratégiques. Il est aussi ambassadeur du Zaïre au Rwanda. Il est avec nous dans ce studio. Bonsoir André Alain Atundu.
Bonsoir.
Mohamed Goulé, député national MLC, ancien vice-ministre de la Défense et général à la retraite. Bonsoir, honorable.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Professeur Jean-Claude Willam, enseignant émérite de l'Université catholique de Louvain en Belgique, membre de l'étude de coordination Afrique centrale d'Amnesty International. Lui, il est en ligne. Bonsoir, professeur.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission, réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Mettre en place un monitoring conjoint sur le terrain et un mécanisme d'échange d'informations entre les services des renseignements du Rwanda, du Burundi et de la RDC sont les quelques recommandations qui ressortent du communiqué conjoint signé le mardi dernier à Matadi à l'issue de la deuxième session d'évaluation de l'opération Kimia 2 qui s'est tenue dans cette ville du Bas-Congo. À cet effet, nous rejoignons depuis Matadi Guy Roger Nyampala, l'un de nos correspondants sur place. Guy Roger, bonsoir.
Bonsoir Alain Rung.
Parlez-nous d'abord de l'ambiance qui a régné au cours de ces assises de Matadi.
Écoutez Alain, cette deuxième session d'évaluation de l'opération Kimia 2 s'est déroulée dans une très bonne ambiance telle que l'a déclaré Simon Batibacha, gouverneur de la province du Bas-Congo, qui a accueilli ses assises dans sa résidence officielle. Pourquoi cette réunion s'est tenue à Matadi? Eh bien, le numéro 1 du Bas-Congo a indiqué que ce choix était celui du président de la République qui voulait lancer trois messages significatifs. Un message de paix nationale, de solidarité, d'encouragement et de persévérance à l'endroit des populations bas-congolaise afin qu'elle reste à jamais attachée à la paix, a déclaré Simon Batibacha, et les travaux se sont déroulés donc Alain à huis clos jusqu'à la signature du communiqué conjoint le même mardi au Flat Hotel Lydia. Voilà.
Parlons justement du contenu de ce communiqué conjoint signé par les chefs d'état-major de ces trois pays de la CPGL. Qu'est-ce que nous pouvons en retenir?
Dans ce document de 6 pages, Alain, les chefs d'état-major généraux des armées rwandaises et burundaises ont félicité les chefs d'état-major des FARDC ainsi que le commandant des forces de la MONUC pour les résultats excellents obtenus à l'issue de près d'une année de l'opération Kimia 2. Comme résolution, Alain, outre la recommandation mentionnée dans votre introduction, les trois chefs d'état-major généraux de la CPGL ont décidé de maintenir le rythme des opérations en vue de la réussite de l'opération à Manileo, d'intensifier la sensibilisation de la population afin qu'elle se désolidarise des éléments résiduels des FDLR, d'organiser des rencontres régulières à tous les échelons de commandement pour échanger les renseignements et les informations dans le cadre des opérations. Ce sont là les quatre recommandations, Alain.
Y a-t-il un autre élément à dire, Roger, ajouté par rapport à ce communiqué conjoint?
Tout à fait. Dans ce document, les chefs d'état-major général de l'armée rwandaise ont encouragé les FARDC et la MONUC à poursuivre la traque des FDLR restants en vue de leur éradication. Son homologue burundais, lui, indique ce document réagissant à l'information selon laquelle les éléments FDLR fuyant l'opération Kimia 2 seraient exfiltrés au Burundi, a précisé que la vérification faite par l'armée burundaise n'a pas confirmé cette allégation. Il a préconisé l'intensification des échanges de renseignements pour démanteler ces bandits armés afin de mieux sécuriser la frontière commune. Babacar Gaye, commandant de force de la MONUC, a souhaité poursuivre ce communiqué final que les experts des états-majors des FARDC et des forces de défense du Rwanda se réunissent régulièrement en vue d'harmoniser leurs points de vue pour atteindre les objectifs fixés. Enfin, Alain, les chefs d'état-major général des FARDC a rassuré ses hôtes que les FARDC vont poursuivre sans relâche les opérations jusqu'à l'éradication des FDLR sur les territoires congolais et document annonce enfin que la prochaine tripartite d'évaluation se tiendra à Kisangani en province orientale en date du 15 avril de l'année en cours.
Merci Guy-Roger Nyampala et bonne soirée à Matadi.
Merci Alain.
Alain André Atundu Diongo, vous ouvrez le bal. Une question à double volet. Comment vous avez accueilli cette réunion et comment vous analysez les recommandations?
Rebonsoir.
Merci
à vous et surtout aux auditeurs.
En leur nom, merci.
Au professeur Jean-Claude Villard. C'est le mois de janvier, je suis tenté de dire enfin une bonne nouvelle qui projette, n'est-ce pas, une plus grande sécurité à l'est du pays, où sont impliquées les populations, les forces politiques, les forces militaires de nos trois pays. Ce n'est qu'un juste retour des choses. Avant les événements, les péripéties de relations de nos trois pays, à partir de 1997, c'est ainsi que le Congo et le Rwanda, la CPG, en somme, traitaient ces problèmes. Le problème de la sécurité ou de l'insécurité dans la sous-région, dans nos frontières communes, est une préoccupation commune. Il est donc normal, logique, de la nécessité des faits que les forces de stabilisation, les forces de défense puissent s'associer, se concerter régulièrement et mener des opérations conjointes. Et je suis heureux parce que on y a ajouté le service de renseignement. En effet, durant l'époque de la CPGL phase 1, il y avait une tripartite de la sécurité. Eh bien, ces rencontres entre techniciens de la sécurité et de la défense sont de nature à consolider la confiance entre nos institutions, sont de nature à accroître la crédibilité de nos chefs d'État. Ici au Congo, on a pensé, à juste titre ou à tort, que M. Kagame, le président Kagame, ne jouait que de la comédie. Peut-être que de l'autre côté, on pensait aussi que le président Kabila ne jouait que de la comédie. Mais aujourd'hui, eh bien, nous savons que la décision de notre chef d'État de combattre ensemble les forces de déstabilisation sont en réalité l'expression de leur détermination et de leur volonté commune.
Honorable Mohamed Boulé, quelle est votre perception de cette réunion?
Oui, merci beaucoup. Je remercie M. André Atundu, ambassadeur, et aussi le professeur qui est intervenu. Ma lecture, c'est une bonne chose, je peux dire, parce que après plusieurs contacts au niveau diplomatique, au niveau le plus haut possible, au niveau des chefs d'État, et que ce soit maintenant les responsables numéro un qui répondent par devant leurs chefs d'État, c'est-à-dire les chefs d'État-major généraux des armées, c'est-à-dire rwandaises, ougandaises et la République démocratique du Congo, et bien entendu le commandant de la force de la MONUC en République démocratique du Congo, se soient réunis à Matadi pour faire cette évaluation. Oui, tout à fait.
Alors, parmi les recommandations,
parmi ces recommandations,
vraiment, par exemple, maintenir le rythme des opérations en vue de la réussite de l'opération à Manileo. Entre-temps, les chefs d'état-major ont dressé quand même un bilan de l'opération à Kimia 2. Pour eux, c'est une réussite, mais on sait que pour beaucoup d'observateurs, le bilan de cette opération reste encore mitigé.
Oui. Nous ne pouvons pas dire le contraire de ce qu'ils ont dit, parce que lorsque vous parlez des réussites, c'est-à-dire ça fait dire que c'est un succès, en quelque sorte, pour les opérations montées. Qu'est-ce qu'il faut faire en termes militaires? Concrétiser cela par les termes d'exploitation. Il a exprimé en d'autres termes, il faut faire une forte pression pour ne plus permettre à ces éléments dispersés ci et là de pouvoir se réorganiser, de pouvoir remonter leur structure de commandement et politique, et pouvoir s'adonner à faire des missions, disons, des combats de nature qu'on a connu avec beaucoup de pertes en vies humaines du côté congolais. Alors, cela nécessite également des moyens à mettre en place. Les hommes sont là, il faudrait d'autres moyens parce qu'ils opèrent, je l'ai dit, le terrain est assez difficile, ce n'est pas un terrain facile donc auquel on peut accéder facilement, et ceux qui s'y trouvent et qui se sont dispersés ci et là, se sont habitués à ce type de terrain. Et donc, ça veut dire que, mais en termes de délai, bon, je refuse d'emblée de dire qu'il faut accorder un certain nombre de délais comme on a fait, comme on a dit l'autre fois et sur la dernière émission. Il faut donner les moyens qu'il faut à ces forces. Mais l'aspect renseignement, comme je l'avais souligné l'autre fois, c'est important. Pourquoi? Parce que les deux pays qui sont plus concernés, je vais citer le Rwanda et l'Ouganda, avec lesquels nous partageons respectivement une frontière commune de 217 et 333 kilomètres, je pense, de leur côté, ils ont un effort supplémentaire à faire, tout comme la MONUC aussi, qui a reconnu l'autre fois ici qu'il y avait une résolution au niveau des Nations Unies pour pouvoir faire un effort supplémentaire en ce qui concerne les renseignements et qu'ils n'aient pas encore reçu cette recommandation pour pouvoir l'appliquer. Les renseignements est très capital pour la réussite des opérations. Parce que les renseignements vont concerner et les FDLR, et les groupes armés nationaux, et bien entendu, les populations à protéger. C'est très important.
Professeur Jean-Claude Willam, vous suivez de près l'actualité au niveau de la région des Grands Lacs. Comment vous analysez l'issue de cette réunion?
Écoutez, d'abord, il y a une généralité autour duquel tout le monde se trouve d'accord. C'est donc l'échange de renseignements de ce qui se passe au Kivu. Il y a un deuxième élément sur lequel je pense que l'état-major rwandais insiste beaucoup, c'est l'éradication du FDLR. C'est une vieille revendication du Rwanda. Maintenant, moi je ne suis pas sûr que les acteurs sur le terrain, au vu de déclarations diverses depuis déjà 2 semaines, sont tous sur la même longueur d'onde. Quand vous voyez, par exemple, que la MONUC maintenant insiste beaucoup sur non seulement effectivement des opérations militaires, mais aussi assez curieusement sur le développement économique et social. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, éradication du FDLR? Bon, il y a d'un côté un dispositif offensif qui avait été mis en route par Kenya 2, mais qui, on l'a vu, n'a pas donné beaucoup de résultats. Maintenant, certains parlent plutôt d'un dispositif défensif, donc pour protéger avant tout et en priorité, et ça c'est une demande pressante de l'ONU, pour protéger les populations. Donc, je ne suis pas sûr que tout ça soit véritablement clair. Maintenant, ce qu'il faut reconnaître, c'est que depuis 3 semaines, à lire en tout cas les communiqués des agences de presse, dont celle de Radio Okapi, c'est qu'il y a un calme relatif qui est revenu. Depuis 2 ou 3 semaines, on n'entend plus d'affrontement entre FDLR et Armée nationale congolaise. Vous avez un silence à ce point de vue du FDLR, mais je dirais plus que du rapport des experts qui, il y a 2 mois, ont constaté que le FDLR a maintenu intacte sa structure de commandement. Donc on est dans une sorte de situation de statu quo. Par exemple, cette semaine, les seuls éléments au niveau de la sécurité qui se trouvent sur le site de Radio Okapi ont concerné principalement des éléments des forces armées congolaises au sud de Kivu, donc dans la région où j'ai réfugié. Et hier, à des incidents à Rutshuru, il y a eu 2 policiers tués. Les uns disent ce sont des forces armées congolaises, les autres disent ce sont des gens qui viennent du port de la Virunga. Donc vous voyez, vous avez une situation peu claire, pas très claire, sauf que le FDLR, c'est le silence, et d'un autre côté, il y a aussi au niveau des objectifs, peut-être des choses devraient être davantage clarifiées.
Merci.
C'est ma réaction.
Merci, professeur, pour votre réaction dans ce premier tour de table. André Alain Atundu, vous avez suivi le professeur Willam. Il a quelques inquiétudes. Hein. Les orientations ne sont pas clairement clarifiées. Au niveau des partenaires, les objectifs ne sont presque pas les mêmes et il s'inquiète pour ça.
Ben, je ne sais pas si nous avons d'autres paroles beaucoup plus autorisées que les textes du communiqué. Parce que le communiqué reprend la volonté commune des parties. Il est entendu qu'au-delà de ce plus petit commun dénominateur, chaque État essaie de sauvegarder d'autres intérêts connexes. Mais l'inquiétude que partage ce que le professeur appelle inquiétude, je crois que c'est une préoccupation légitime que partagent même les auteurs de ce communiqué. Ce n'est pas parce qu'ils ont reconnu une réussite des opérations. C'est pas parce qu'ils ont pris la ferme détermination de combattre le FDLR jusqu'à l'éradication que ceux-ci vont se laisser abattre comme des moutons qu'on mène à l'abattoir. Et donc, c'est tout à fait... C'est une situation normale. L'inquiétude du professeur est légitime, mais il doit savoir que les chefs d'état-major général et le responsable de la MONUC, qui sont sur le terrain et qui sont au parfum des choses, eh bien, ils ont pris certainement beaucoup plus de dispositions qu'ils ne le disent dans le communiqué conjoint.
Voilà, un quatrième invité dans cette émission, ce sont les auditeurs et ils ont leur point de vue. C'est le cas à Tondo Diongo, de Fikiri Saïdi, Papi, d'Ovira Osul Kivu, qui dit « Pourquoi le Burundi et le Rwanda étaient invités à l'évaluation des opérations Kimia 2 alors que pratiquement sur terrain ils étaient absents? N'est-ce pas un signe de faiblesse de notre armée vis-à-vis de nos voisins ?»
Non, je crois que la première force d'un peuple, d'une armée, c'est d'être décomplexé. Même s'ils n'ont pas participé à Kimia 1, Kimia 2, leur intérêt bien compris les oblige, et notre intérêt bien compris nous oblige à les mettre au parfum des choses. Je vais vous donner un cas tout à fait où nous sommes éloignés. Eh bien, il y avait, dans le temps, entre l'État d'Israël, les services de renseignement et les services de renseignement de la République d'Israël, des échanges. Eh bien, nous n'étions pas particulièrement intéressés à ce qui se passait au Moyen-Orient. Nous n'avions pas des troupes. Et les Israéliens n'avaient pas des troupes ici chez nous, autrement. Mais, dans le cadre des échanges entre des partenaires, il est important que vous puissiez connaître l'état de votre partenaire, ses difficultés et sa volonté à mettre fin à ces difficultés. Et d'autant plus que, dans le cadre de la CPGL, parce que nous nous battons pour la réhabilitation de la CPGL. Il est normal que nous puissions partager cette expérience. Il n'y a pas un problème de faiblesse. Sinon, les Américains, qui sont réputés être la plus grande puissance militaire, n'auraient pas fait appel aux Français et aux forces afghanes. Donc, c'est une opération, c'est un comportement normal des techniciens. Il ne faut pas politiser le comportement des techniciens.
Honorable Mohamed Boulé, André Alain Atundu ne partage pas un peu le scepticisme, l'inquiétude du professeur Willam, mais vous allez donner votre point de vue là-dessus. Mais en plus, il y a Peter Omunai de Bénin-Nord Kivu qui dit « Pourquoi notre pays continue à tendre la main aux pays voisins pour sa propre sécurité? Où en sommes-nous finalement avec la réforme de l'armée et des services de sécurité ?»
Merci beaucoup. Je crois que en ce qui concerne la sécurité, nous sommes un grand pays avec 9 voisins et nous partageons 10721 km de frontières communes. Avec le Rwanda, c'est quelque chose comme 217 et 233 pour le Burundi. Ça veut dire concrètement que je refuse de croire, parce que je suis expert militaire, lorsque nous menons des opérations sur notre territoire, pour des groupes armés étrangères, bien identifiés l'FDLR comme étant des Rwandais. Et bien entendu, il y a d'autres qui peuvent être aussi des Burundais. Vous pensez que lorsque nous lançons ces opérations pour traquer ces FDLR, que ces deux pays soient indifférents? Ils prennent des dispositions sécuritaires
à la frontière pour ne pas permettre que ceux qui pourraient s'exfiltrer à la suite de la pression puissent les surprendre. Et donc, en ce qui concerne les réformes, oui, les réformes, il y a des textes qui sont déjà déposés au niveau de l'Assemblée nationale.
Et qui semble traîner, le pas.
Mais qui ne semble pas traîner. Nous travaillons selon un certain calendrier de travail des sujets, inscrits des points inscrits à l'ordre du jour. Mais lorsque nous vidons ça, mais à la fin, lorsqu'on clôture, on annonce quand même, on fait le bilan des travaux en ce qui concerne la production législative, des travaux, des points qui restent en suspens ou que nous considérons comme des arriérés qu'il faut reprendre. Et en priorité, lorsqu'il y a une session extraordinaire comme celle-ci, il y a un ordre bien établi qui fixe les points à traiter au cours de cette session-là. Lorsque nous allons revenir en mars, certainement en priorité, je voudrais dire à la session extraordinaire ici, il y a deux points importants qui concernent les mines antipersonnelles, les armes de petit calibre, donc tout ça, il y a des textes de loi qui étaient proposés que nous allons examiner. Et les autres les seront très bientôt quand nous serons de retour au mois de mars.
Alors l'aspect inquiétude, le professeur Willam a relevé la divergence un peu dans les points de vue, les orientations des différents partenaires.
Non, mais attention, il ne faut pas confondre certains termes. Lorsqu'on parle défensif, la défensive, c'est pour permettre aux éléments armés de pouvoir se renforcer, d'avoir les rapports de force supérieurs par rapport aux éléments à l'ennemi. Et donc, ici, on ne peut pas parler de défensive. La protection de la population civile, c'est la ligne de front. Lorsqu'on sait délimiter les territoires, on dit, voilà, maintenant, nous avons des informations que ces éléments dispersés s'orienteraient vers telle zone. Il faut prendre les dispositions nécessaires pour les traquer. Là, on doit évoluer, donc, et ça c'est une manœuvre offensive pour aller traquer ces FDLR. Mais en arrière, dans la ligne de communication, parce qu'il y a une certaine accalmie, il faut faire revenir les populations, il faut des mesures d'accompagnement, des mesures psychologiques pour pouvoir ramener les populations et les protéger. Et là-dedans, on fait appel et à la population pour donner leurs renseignements en ce qui concerne les éléments réputés suspects qui seraient remarqués ici et là, et aussi à la police et à tout bon citoyen. On ne peut pas, après les avoir traqués, pour dire maintenant, nous prenons la défensive. Non, il y a encore des résidus, comme ils l'ont affirmé, et c'est très bien que les responsables numéro un de ces trois armées, je ne pense pas qu'ils soient venus pour venir dire le mensonge et dire que ceci n'a pas marché si ce n'était pas le cas. Donc nous devons leur faire confiance et que les opérations militaires, il y a un temps pour commencer les opérations, quand ça se termine complètement, comme c'est le cas ici, ce n'est pas d'aujourd'hui que les FDLR sont là.
Professeur Jean-Claude Willam, vous avez suivi l'honorable Boulet et André-Alain Atundu, qui ne partagent pas tellement votre, je pourrais dire, scepticisme. En plus, il y a cet auditeur marxiste de Kinshasa qui dit « Cette réunion est une véritable distraction, Kimia 1 et 2 n'ont été qu'un échec.
» Écoutez, pour la question de Kimia 1 et Kimia 2, ça semble quand même, il me semble assez clair que il y a eu pas mal de problèmes. Si l'on lit le rapport des experts des Nations Unies, vous avez un constat comme quoi bon la structure du FDLR elle s'est maintenue intacte. Donc, de ce point de vue-là, je ne sais pas si on peut parler d'un succès. Mais il y avait une distinction qui a été faite par le prédécesseur, mon prédécesseur, qui parlait de distinction entre stratégie offensive et défensive. Bon, dans les deux opérations, qu'il y a un et qu'il y a deux, vous avez eu une volonté de pratiquer une stratégie offensive. Bon, qui n'a, si l'on lit en tout cas le rapport des Fédérations Unies, qui constate que cette stratégie offensive n'a pas réussi dans la mesure où les structures de l'air sont maintenues, disent-ils. Maintenant, moi je me fie à les documents, je ne suis pas sur le terrain. Donc, ce qui signifie que cette stratégie offensive, donc de droit de poursuite, comme on dit en langage international, donc cette stratégie de poursuite de l'ennemi, entre guillemets, n'a pas donné ses fruits. Donc on semble, d'après certaines informations qui figuraient sur dans les communiqués de Radio Capi, on parlait plutôt d'une stratégie défensive dans le sens où c'était protéger la population dans des zones qui pourraient être attaquées par le délai, mais ne pas passer à l'offensive.
Professeur,
oui.
Professeur, donc si je vous comprends, à ce niveau, vous souhaitez par exemple que les trois pays, le Rwanda, le Burundi et la RDC, puissent harmoniser leurs points de vue pour mieux canaliser leurs efforts sur terrain.
Mais écoutez, c'est pas seulement les trois pays, ou principalement, comme on l'a dit, les deux pays qui sont surtout concernés, à savoir le Rwanda et le Congo. Vous avez aussi un autre acteur qui s'appelle la MONUC. Et c'est là où, je dis, ce trio, MONUC, état-major rwandais, état-major Congo, état-major de l'armée nationale congolaise, devrait être clair dans leur communication. Quand j'entends la MONUC dire « Oui, mais il n'y a pas seulement des opérations militaires, il y a aussi du développement économique et social », je dis ce point, par exemple, n'est pas retenu dans le communiqué de chef d'état-major, c'est bien que y a un problème d'être clair par rapport à tous ces concepts développement économique et social, stratégie offensive, stratégie défensive. C'est tout ce que je veux dire. Mais j'ajoute, mais que moi je ne suis pas sur le terrain, je suis ici à Bruxelles. Moi, ce qui m'interpelle, c'est une question de langage, de terminologie par rapport aux objectifs principaux, ou plutôt à l'objectif principal. C'est quoi l'objectif principal? Est-ce que c'est la protection des populations? Est-ce que c'est donc une stratégie défensive? Est-ce que c'est éradiquer les LDLR? Ou bien est-ce que il n'y a pas que des coopérations militaires, il y a aussi le développement économique et social? Il faudrait que les acteurs de terrain, donc MONUC, et les différents états-majors concernés, et un même, parle exactement le même langage.
Merci, professeur.
Je vous répète que moi, je parle à partir de communiqués de presse, je ne suis pas sur le terrain.
Voilà, merci, professeur, pour la précision. André Alain Tundu, il y a Boni Kitumba depuis Kanyabayonga au Nord Kivu qui dit « J'apprécie ce rapprochement des trois responsables des armées de trois pays, mais je crains que leur résolution soit lettre morte sur terrain, que notre pays évite de négocier en position de faiblesse avec nos voisins. » André Alain Tundu.
Mais, je le répète, il faut être décomplexé. Ça, ce sont des problèmes techniques qui n'ont rien à voir avec des sensibilités politiciennes. La sécurité, l'honorable Boulay l'a dit, lorsque nous menons des opérations sur notre terrain, dont un des résultats voulus ou inattendus est l'exfiltration par la force des choses de ces troupes-là vers leur pays d'origine, il est normal qu'ils prennent des dispositions. Et donc c'est une coopération normale. C'est la même chose lorsque l'Union européenne décide d'intervenir au Congo, l'Union européenne décide d'intervenir avec l'accord du Congo, ici dans le cadre de l'Enfort. Il ne s'agit pas de... C'est un partenariat. On doit comprendre que l'insécurité est une matière à partager comme le bien-être économique. Et donc, c'est tout à fait normal que les voisins qui sont les premiers intéressés aux conséquences du démantèlement et de l'éradication de ces troupes de déstabilisation sur notre territoire, parce que s'ils disparaissent de chez nous, ils vont apparaître chez eux. Et donc, il est de notre intérêt que nous puissions nous réunir. Mais ce qui est important, je crois, c'est le résultat stratégique.
C'est-à-dire
c'est repris dans le communiqué. Les effectifs des FDLR sont sensiblement réduits. Tous les sanctuaires des FDLR sont démantelés. Le commandement militaire, la structure politique, l'administration, etc., sont complètement désarticulés. Les FDLR sont coupés de leur source de ravitaillement. Et souvenez-vous, il y a X ans, la source de ravitaillement des FDLR, c'était, et on parlait de notre gouvernement, on parlait des complicités au Burundi, on parlait des complicités au Rwanda. Mais aujourd'hui, ces présumés coupables d'hier se disent, eh bien, nous allons combattre les FDLR. Eh bien, c'est le résultat, sont sur le terrain. Mais ceci ne veut pas dire qu'il n'y a plus de problèmes. Il y a des problèmes, mais nous avons les moyens. Nous avons davantage de moyens pour maîtriser ce problème et mettre fin au problème d'insécurité. Et le premier résultat, c'est l'esprit de confiance qui renaît. Ça, c'est nouveau. Et c'est important pour l'éradication. Parce qu'on avait l'impression que le Congo défendait les FDLR.
Honorable Monette Boulay, deux auditeurs, Pascal de Cape Town en Afrique du Sud. Nous sommes fatigués avec le tâtonnement de notre gouvernement dans la gestion de notre pays. Bien fait, Moshobora de Goma au Nord Kivu. Nous avons beaucoup de choses à apprendre du Rwanda, surtout dans le domaine sécuritaire. Connaître nos limites et identifier les personnes qui peuvent nous aider à nous améliorer fait partie de l'honnêteté et de l'humilité qui devraient animer nos hommes politiques depuis très longtemps.
Oui, je voudrais d'abord placer un mot à ce qui concerne la préoccupation économique et sociale, comme a dit l'intervenant du tout à l'heure de Bruxelles. C'est important. L'armée, les trois chefs d'état-major de l'armée qui se sont réunis avec la MONUC pour faire le bilan des opérations Kimia ne peuvent pas aller au-delà de l'aide de briefing. Ils ne pouvaient que parler des aspects militaires. En ce qui concerne les aspects économiques et sociaux, c'est il y a d'autres structures, notamment lorsque le chef d'état-major revient, c'est lui qui préside le haut commandement militaire, il va certainement faire le débriefing et également informer le commandant suprême des forces armées par le truchement du Conseil supérieur de la défense qui vont examiner de cela. Et c'est de là, cette structure politique, de se saisir de ces dossiers pour pouvoir donner des directives en ce qui concerne les aspects sociaux. Mais nous sommes tenus à coopérer pour régler certains problèmes, et sécuritaires notamment. Rappelez-vous, nous partons de très loin, de 1994, lorsqu'on décide d'ouvrir les couloirs humanitaires. Est-ce que la décision était prise avec la volonté du peuple congolais? Je l'ai dit non. C'était pris ailleurs, parce que les grands ont décidé, avec l'appui bien entendu des Nations Unies, on a pris une résolution, et c'est comme ça qu'on est arrivé à cette opération Tricolore. Les conséquences, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Dire que nous sommes faibles, c'est bien vrai, mais nous devons, dans le cadre de certaines structures régionales, notamment la CPGL, si je ne peux pas citer Sadek ici qui n'est pas encore concerné dans ça, nous sommes obligés de nous mettre autour d'une table pour pouvoir échanger franchement. Mais quel serait alors ce débat si, pour la première fois, que nous apprenons que le chef d'état-major, le général des forces armées rwandaises, celui-là qui était ici au Congo, qu'on le connaît bien, le général Kabarebe, avec son collègue burundais et le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, et bien entendu les commandants de la MONU, se sont mis autour d'une table. C'est de là qu'ils devaient échanger sur tous les aspects concernant les opérations Kimia 1 et Kimia 2, et pouvoir tirer les conséquences et pour pouvoir envisager les opérations à venir.
Nous allons sans transition aborder la deuxième partie de cette émission. Comment concrétiser ces recommandations pour consolider la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs? Il y a des auditeurs qui ont leur point de vue à ce sujet. C'est par exemple Blanchard Luana de Mbandaka dans la province de l'Équateur qui dit « La paix ne pourrait se stabiliser dans la région des Grands Lacs que si les chefs d'État membres de la CPGL se mettent d'accord. Sécuriser conjointement les frontières des pays des Grands Lacs par les différentes troupes militaires des États membres. Il y a également Kakuli Sefu Gustave de Kalemi au Katanga. Pour mettre en œuvre les recommandations faites, il faut qu'on évite les agendas cachés parmi les signataires. Il y aurait ceux qui se mixent aux ennemis en déstabilisant la RDC. Donc, j'invite à la prudence. Professeur Willam, que faut-il, d'après vous, pour que ces recommandations ne restent pas lettre morte, comme s'en inquiètent certains auditeurs?
Bah écoutez, il y a, je reviens, je pense à la déclaration, au commentaire de M. Atundu. J'entends dire, nous avons maintenant les moyens. C'est quand même la principale question de savoir quels sont ces moyens. Et là, bien entendu, on touche à la question de la réforme du secteur de sécurité. On touche aussi à des moyens logistiques. Mais ça aussi, le Congo en est relativement dépourvu. Dans le sens où vous avez, au fond, une situation qui est éminemment locale. Je dis, vous aurez beau prendre des résolutions dans ce que moi j'appelle la salle climatisée, hein, des réunions de chefs d'état-major, des réunions de chefs d'état, de gouverneurs de province ou quel qu'elle soit, ça c'est ce qui se passe dans la salle climatisée. Mais dans la véranda, vous avez donc ce qu'on appelle les forces négatives, mais qui ont peut-être des agendas tout autres. Et vous avez des situations tout à fait paradoxales, comme par exemple des bandes de VLR qui à certains moments peuvent s'allier avec l'un ou l'autre, y compris avec certains éléments des forces armées congolaises. Donc vous avez une situation extrêmement fluide. C'est là où la question des moyens est importante. Comment fait-on pour éradiquer cette logique de violence sur la véranda? Ça, c'est, pour moi, c'est quelque chose d'assez fondamental. Vous savez, on a raté, je pense, une occasion, et c'est véritablement dramatique. C'est le moment où la MONUC, où l'ONU a fait appel à une force d'intervention rapide de type européenne, ce qui signifiait l'envoi de 18 hélicoptères, l'envoi de personnel d'intelligence, intelligence militaire et autres, l'envoi de troupes pour surveiller ce qui se passe dans la région. Bon, bien entendu, on dira, oui, mais c'est du néocolonialisme. Oui, mais il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut éradiquer cette logique de violence, qui est une logique qui n'est pas seule de la salle climatisée?
Merci, professeur.
Pour moi, ça, c'est le tout gros problème auquel on a affaire.
Merci, professeur. André-Alain Atundu, le professeur, vous a posé la question. Quels sont ces moyens? Peut-être que l'honorable Boulay, autorité budgétaire, pourra nous donner quelques pistes à cet effet. Qu'est-ce que vous répondez au professeur Willam?
Au professeur, les moyens sont d'abord logiques et ensuite financiers.
Logique, c'est-à-dire?
Auparavant, nous étions seuls à combattre les VLR. Aujourd'hui, nous sommes trois. Donc,
avec des points,
le Congo,
des objectifs divergents.
Non, avec une vision commune. L'éradication des SDLR ici chez nous et éviter leur implantation dans les États voisins. Et ça, c'est le socle qui nous réunit. Et donc, puisque nous avons la volonté, nous pouvons dégager un minimum de moyens entre nos trois États pour combattre ces gens-là. Bon. Deux, la CPG, à partir des recommandations des chefs d'état-major général et des chefs d'état-major généraux, eh bien, peut penser aujourd'hui à créer un corps d'intervention pour notre pays. On dit, pour ce genre de problème, eh bien, il est important que nous puissions intervenir, comme le fort aujourd'hui.
Donc la CPGL devrait se rapproprier ses recommandations.
Non, ils font partie de la CPGL. C'est une évolution de la pensée stratégique de la CPG dans la défense de notre sous-région et dans l'implantation de la sécurité. Ça, c'est très important. On pourrait même continuer, créer un corps de protection civile. Donc, comme l'a dit l'honorable Boulet, la réunion des chefs d'état-major a une compétence bien déterminée. Ils se sont réunis pour évaluer la situation sécuritaire, ils ne se sont pas réunis pour parler du développement économique. Et que la MONUC parle du développement économique, ceci n'est que logique. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, le débat est la présence prolongée de la MONUC au Congo, et pour la MONUC, la prolongation de cette présence répond à la nécessité de la modification de l'objet de la mission de la MONUC, notamment le problème économique, etc. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Il faut discuter avec les responsables politiques. Donc, il ne s'agit pas d'une contradiction, non. Il s'agit d'une évolution normale d'un problème, j'allais dire, technique. Parce que les objectifs, c'est éradiquer les FDLR. Éradiquer les FDLR, c'est créer des remous ou des contre-coups au Congo, au Rwanda et au Burundi, et puis la protection de la population civile, et enfin, lorsque toutes ces conditions sont réunies, c'est le développement économique. J'allais dire, donc, la MONUC a un peu dévancé.
Voilà, honorable Mohamed Boulet, juste signaler à nos auditeurs que vous avez bien implanté vos quartiers dans ce studio, hein, carte à l'appui, en bon ancien militaire, c'est un petit détail. Alors, honorable, déjà au début de l'émission, vous parliez des moyens. Vous êtes l'autorité budgétaire, vous êtes au Parlement. D'où viendront ces moyens?
Écoutez, les moyens pour mener à bien ces opérations, vous comprenez que notre budget ne peut pas tout supporter. Parce que ces moyens, il faut des acquisitions majeures. Ce n'est pas avec les budgets nationaux qu'on peut les acquérir. Nous ne cessons de recommander au gouvernement qu'en plus de cela, que les ministères concernés, que ce soit le ministère de la Défense ou le ministère de l'Intérieur, puissent, en plus du budget, nous amener ce qu'on appelle la loi de programmation en ce qui concerne l'armée ou la police. C'est une loi pluriannuelle. Et c'est au gouvernement, dans la politique de sa coopération, dans la politique de sa diplomatie, une fois que nous avons voté ce budget, c'est au gouvernement d'aller chercher ce budget à partir de ses partenaires pour pouvoir donc disposer des ressources nécessaires pour faire face à cela. Il y a un coût pour les opérations. Il faut d'abord payer ses militaires. Il faut les soigner lorsqu'ils sont blessés. Il faut les nourrir constamment. Il faut leur donner un habillement approprié. Il faut les renseignements. Mais pas seulement leur permettre d'aller à travers la jungle, mais il faut aussi d'autres moyens. On a parlé ici que l'Union européenne allait mettre à disposition 18 hélicoptères. Ça a un coût. Lorsqu'on amène les hélicoptères ici, il faut des techniciens. Il faut les entretenir et tout ça. Mais le problème important, c'est les renseignements. Je suis en train de m'étonner. Lorsque le conseil restreint en France, le 15 juin 1994, qui a décidé de l'opération turquoise sous le président Mitterrand, ça concernait notre pays. Maintenant, là, pourquoi est-ce que, comme nous avons ces problèmes dont nous n'en voulions pas, pourquoi est-ce que tous ces partenaires-là éviteraient de venir en aide pour donner, mettre à notre disposition, à la disposition du gouvernement, les moyens qu'il faut, parce qu'ils savent que nous n'en avons pas.
Voilà. Mimi Kimbo, notre technicien, a déjà annoncé les couleurs de la fin de l'émission. Professeur Willam, très brève conclusion, je vous en prie.
Écoutez, je suis heureux d'apprendre que, effectivement, il pourrait y avoir quelque chose dans le cas de la CEPGL, donc en matière de sécurité, bien entendu, ce n'est pas inscrit dans le texte qui ont été signés par les différents états-majors.
Merci, professeur.
Il y a là une piste possible, mais je dis, encore faudra-t-il, il y a des problèmes, comme on l'a dit, budgétaires, etc. En termes d'appui extérieur, comme Saki, par exemple, c'est encore un point d'interrogation.
Merci, professeur. André Alain Tondo, très brève conclusion, nous sommes à la fin de l'émission.
Eh bien, la sécurité, est une préoccupation commune de notre État. Il est normal que les instruments de défense, notamment les armées, les responsables des armées, puissent se réunir. Si l'Europe estime qu'elle doit intervenir, il faut qu'elle s'implique dans la pensée stratégique de ces trois-là, plutôt que de venir imposer une pensée qui doit être adaptée.
C'est par vous que nous terminons cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, de l'avoir suivi. Mimi Kindou a assuré la partie technique. Guy Maté, Kevin Kouté vous l'ont préparé. Martin Sebouzangue l'a coordonné. Restez branchés sur la radio de la paix. Okapi, okapi.